Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre bulletin de nouvelles hebdomadaire pour savoir ce qui s'est passé cette semaine au territoire du Nord-Ouest. Voici ce qui a retenu notre attention. La municipalité de Yellowknife exigera une preuve de vaccination aux résidents qui souhaitent accéder à la piscine, au multiplex et aux autres établissements municipaux. Plus d'un conseiller ont décrit cette décision comme l'une des plus difficiles de leur mandat. Le résultat est tombé ce lundi 8 novembre vers 22h40 à 5 voix contre 4. C'est notamment pour accueillir davantage de résidents dans ces installations que l'administration propose d'y exiger le document. À l'heure actuelle, la limite de personnes admises dans les lieux publics intérieurs est de 25 au territoire du Nord-Ouest. Cette limite peut passer à 50 pour les organisations qui choisissent d'adhérer au système de preuve de vaccination. On estime qu'en réclamant des exceptions, la santé publique pourrait accepter d'étendre cette limite à une centaine de personnes pour certaines installations de la municipalité. Les conseillers Julian Morse, Shauna Morgan, Cynthia Mufandeza, Robin Williams ainsi que la mairesse Rebecca Alty ont voté en faveur de l'adoption de cette politique. Les conseillers Rommel Silverio, Nils Kange, Stacy Smith et Steve Payne ont voté contre. Ce vote mettait un terme à des heures de discussion, certains conseillers qualifiant cette mesure de discriminatoire pour les personnes ayant choisi de ne pas se faire vacciner, les autres défendant le droit pour tous les résidents de profiter de ces installations sans craindre d'être exposés au virus.
Honestly, I think this is the, for me personally, this is the worst decision that I have ever had to make on council.
C'est la pire décision que je n'ai jamais eu à prendre, a affirmé le conseiller Nils Kange, qui siège au conseil municipal depuis 2012. Plusieurs de ses collègues ont déploré la division générée par cette question au cours de la dernière semaine.
This is not a simple debate, and it's not simply, you know, a fight between the anti-vaxxers and the vaccinated. And some people, especially out in the public, may have thought that it was as simple as that, and it's not.
Ce débat n'est pas simple, a révélé la conseillère Shauna Morgan. Ce n'est pas un simple combat entre les anti-vaccins et ceux qui sont en faveur de la vaccination. Certains membres du public ont pu croire que c'était le cas, mais ce ne l'était pas, a tenu à mentionner Mme Morgan. Une semaine avant le vote, une majorité des conseillers présents à la rencontre du conseil ont affirmé qu'ils s'opposeraient à cette politique.
Yeah, and that's the crux for me, is that I'm not in favor of the policy as written.
C'est une volte-face du conseiller Robin Williams qui aura déterminé l'issue de la soirée. Après avoir affirmé qu'il voterait contre, ce dernier a proposé d'ajouter des amendements à la politique, notamment pour en libérer les jeunes de moins de 12 ans. Ces derniers pourraient bientôt être admissibles à la vaccination, donc contraints aux politiques de preuve de vaccination. Les amendements proposés par M. Williams ont été rejetés par une majorité.
I don't want to put my hand up for this one, but unfortunately... that's the decision that we have to make as a council.
Il s'est tout de même rangé en faveur de la preuve de vaccination. Le conseiller Nils Kange a profité de cette dernière rencontre pour présenter de brèves excuses pour les propos qu'il a émis le 1er novembre.
You know, I mean, I don't think we have to go back very far, and there was people in Canada who would sit at the front of the bus, and we would, you know, they weren't allowed to sit there. It wasn't for them. And I think we're doing the same thing here.
Le conseiller avait alors comparé le système de preuve de vaccination à l'interdiction pour les personnes noires de s'asseoir à l'avant des autobus de certaines villes nord-américaines, une politique raciste qui a été abolie dans les années 1950.
I'd like to apologize for the comparison I made last week during the proof of vaccination policy discussion that we had at GPC. I did not mean for my words to hurt anyone, but they did. And for that, I am deeply sorry.
Je tiens à m'excuser d'avoir fait cette comparaison, a-t-il déclaré. Je ne voulais blesser personne, mais ce fut le cas. J'en suis profondément désolé.
As an indigenous person, I didn't feel that this analogy was racist.
La conseillère Stacy Smith a défendu son collègue en indiquant qu'il ne s'agissait pas là de la meilleure analogie, mais qu'elle ne considérait pas ses propos comme racistes. La conseillère Cynthia Mufandeza a également rejeté l'appellation. Plus tôt cet automne, M. Kange a comparé les petites entreprises de Yellowknife affectées par les mesures sanitaires, dont il défendait alors les intérêts, aux victimes des pensionnats autochtones.
«
are getting shut down by forces way beyond them, kind of like the 60s group, right?
Seule la mairesse était alors intervenue pour affirmer que ces deux situations sont incomparables. M. Kangay s'est ensuite excusé. Qu'ils y soient bien enracinés ou simplement de passage, tout francophone immigrant au territoire du Nord-Ouest a le pouvoir d'y laisser sa marque. Cette réflexion émane des recommandations formulées dans le cadre d'une récente étude portant sur l'immigration francophone au TNO. Les résultats étaient dévoilés cette semaine dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone qui prenait place du 7 au 13 novembre. Le chercheur Guillaume Deschênes-Thériault, candidat au doctorat à l'Université d'Ottawa, a présenté les grandes lignes du rapport dans le cadre d'un forum organisé par le réseau en immigration francophone des TNO. Parmi les conclusions, on note notamment qu'une large proportion des immigrants francophones au territoire du Nord-Ouest sont des travailleurs temporaires qui sont ainsi susceptibles de ne passer que quelques années sur le territoire. L'étude émet certaines recommandations afin d'accroître la rétention des personnes immigrantes au territoire du Nord-Ouest. On appelle également à reconnaître la valeur de toute présence, même si cette présence n'est que temporaire, comme l'explique le chercheur Guillaume Deschênes-Thériault.
On peut penser dans certaines régions, par exemple telles que Hay River, l'arrivée de quelques familles immigrantes peut avoir un impact considérable sur l'école francophone locale. Donc, ça nous invite à repenser cette distinction-là entre permanent et temporaire dans le contexte territorial. Repenser aussi l'approche à la rétention, parce que souvent, on voit les départs comme quelque chose de négatif, parce que l'objectif, c'est de dire qu'on veut tenter de favoriser la rétention. Mais en soi, lorsque quelqu'un passe quelques années, vient 5-6 ans au territoire du Nord-Ouest, a une expérience positive sur place, contribue à la communauté francophone locale, à la vitalité de la communauté lors de son séjour et après repart pour poursuivre son parcours ailleurs, c'est pas nécessairement négatif en soi.
Selon le portrait statistique brossé par les chercheurs, 12,22% de la population francophone des TNO provient de l'extérieur du Canada.
Parmi cette population immigrante francophone-là, 93,5% est bilingue et 82,8% est diplômé du postsecondaire.
Des données non négligeables, comme l'a souligné Guillaume Deschênes-Thériault, et les résultats le confirment, c'est en grande partie l'emploi qui attire les immigrants francophones au territoire du Nord-Ouest.
Le principal motif qui a été évoqué à la fois lors des entretiens et dans le sondage, c'est l'emploi. Donc, une opportunité qui se présente en lien avec parfois des salaires compétitifs par rapport à d'autres endroits, mais aussi on juge le territoire du Nord-Ouest comme un endroit où les personnes en début de carrière ont l'opportunité d'acquérir une certaine expérience. Donc, parfois, avoir des postes à plus haute responsabilité qu'on pourrait l'avoir dans certains centres urbains du Sud, par exemple.
Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest contribuerait dans une grande proportion à attirer ces travailleurs de l'étranger.
Près de 40%, 39,5% des résidents permanents admis au cours des 5 dernières années l'ont été dans le cadre du programme des candidats du territoire. La moyenne nationale est d'environ 20 %.
Le programme des candidats est un programme d'immigration fédérale qui donne notamment aux territoires et aux provinces la possibilité de répondre à leurs besoins particuliers en matière de développement économique. Au TNO, ce programme attire presque uniquement des résidents temporaires.
98 % des candidats qui ont été admis dans le cadre du programme des candidats des territoires du Nord-Ouest entre 2010 et 2015 étaient au Canada à titre de résident temporaire avant d'obtenir leur résidence permanente. Donc, le chiffre était de 98 % pour les territoires du Nord-Ouest et la moyenne nationale était de 65 %.
Selon les chercheurs, la majorité des répondants se disent satisfaits des différents aspects de leur séjour au territoire du Nord-Ouest, qu'ils choisissent d'y rester à long terme ou à court terme. Plusieurs facteurs, qu'ils soient propres au territoire du Nord-Ouest ou non, peuvent tout de même pousser les immigrants francophones à se tourner vers d'autres provinces après avoir, par exemple, acquis suffisamment d'expérience professionnelle. Sur ce plan, une importante proportion des personnes interrogées se disent surqualifiées pour l'emploi qu'elles occupent présentement.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la plupart des personnes se disent plutôt bien ou très bien intégrées d'un point de vue professionnel, mais 16 répondants sur 33 mentionnent que leur travail actuel ne correspond pas du tout ou pas vraiment à leur niveau de formation ou niveau d'expérience. Donc, ces personnes-là occupent un emploi pour lequel ils sont surqualifiés. Peut-être que certains ne jugent pas ça problématique dans l'immédiat, mais à long terme, ça peut être un facteur qui peut nuire à la rétention lorsque certaines personnes décident de tenter leur chance ailleurs pour obtenir un emploi qui correspond à leur niveau de compétences et d'expérience.
Cette étude, commandée par le Réseau en immigration francophone des territoires du Nord-Ouest, a été financée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Comme l'explique la coordonnatrice du réseau, Abby Sherlou, l'organisation s'inspirera des recommandations issues de cette étude dans l'élaboration de ses futures stratégies.
Je dirais que l'étude, ça va avoir un grand impact sur la direction du Rifteno, parce qu'il y a pas mal de recommandations qui ont sorti de cette étude-là et on compte incorporer ces recommandations-là dans notre nouveau plan stratégique. Alors, je crois que vraiment, c'est un début d'un nouveau chapitre avec cette étude-là et les résultats, et j'ai vraiment hâte de voir où ça va nous amener.
De leur côté, les chercheurs comptent pour l'instant élargir la portée de cette étude sur l'immigration francophone au territoire du Nord-Ouest.
Cette étude-là en a inspiré une seconde. Donc, maintenant, on est en train de mener une recherche aussi à l'échelle des prairies, donc Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Nunavut et territoire du Nord-Ouest.
34 immigrants francophones qui habitent ou qui ont habité au territoire du Nord-Ouest ont été interrogés dans le cadre de cette étude. On apprend notamment que 75 % des immigrants francophones des territoires du Nord-Ouest habitent Yellowknife et qu'une majorité des immigrants francophones du territoire, soit 35,5 %, proviennent du continent africain. La croissance de la population de Yellowknife s'est ralentie au cours des dernières années, mais la croissance de ses infrastructures, elle, se poursuit. C'est en ces termes que l'administration municipale évoque les dépenses à prévoir pour la prochaine année. Présenté au conseil municipal le 8 novembre dernier, le budget préliminaire 2022 de Yellowknife propose une augmentation de 13,44 % de l'impôt foncier.
Annually try to remind people to not get too panicked about it because it's quite different from the number that we're likely going to land on.
Le conseiller Julian Morse a appelé les résidents à ne pas paniquer face à cette importante hausse d'impôts proposée par l'administration de 13,44 % qui n'en est à l'heure actuelle qu'au stade de proposition.
Some of the options we're going to take and some of them we won't, and you know, in my 6 years so far I have not seen council go anywhere close to the kind of draft budget tax raise. So.
Il y a 6 ans que je suis conseiller, je n'ai encore jamais vu le conseil municipal ne faire que s'approcher des recommandations de l'administration en matière d'augmentation des impôts, a assuré le conseiller municipal Julian Morse. On prévoit pour 2022 des dépenses s'élevant à 122 millions de dollars, une augmentation considérable par rapport aux dernières années. D'ici la fin de 2021, 91 millions devraient avoir été dépensés. Pour 2020, première année de pandémie, la colonne affiche 77 millions. Cette hausse était toutefois prévue. C'est en 2022 que pourrait officiellement débuter le chantier du centre aquatique de Yellowknife, auquel serait consacré, pour une première année, environ 20 millions de dollars. Rien n'est toutefois confirmé puisque les résidents devront d'abord approuver l'emprunt d'environ 10 millions à Ottawa dans le cadre du référendum du 23 novembre. Ce projet de centre aquatique est en ce moment évalué à 67 millions. Au total, l'administration estime que 42 millions devront être dépensés en 2022 pour la réalisation de projets d'infrastructure majeurs qui devront assurer à la municipalité de fournir des services essentiels à la population et de respecter les cadres légaux. La liste inclut le projet de remplacement des infrastructures d'aqueduc et d'égout, le projet d'asphaltage de la municipalité ou encore la première étape de l'agrandissement de la caserne de pompiers. Le conseil municipal devra évaluer ce budget préliminaire au cours des prochaines semaines et délibérer sur les modifications à y apporter. Le budget 2022 d'Yellowknife devrait être adopté le 13 décembre.
It will be a tough week and a tough month, I know, for folks reviewing all this information.
La mairesse Rebecca Alty prévoit que l'exercice des prochaines semaines sera difficile pour les conseillers municipaux qui devront trouver un juste compromis pour combler les besoins des résidents tout en minimisant leurs charges fiscales. Il est difficile d'équilibrer toutes les demandes et de s'assurer que c'est financièrement abordable pour les résidents, a souligné la mairesse. L'an dernier, face à une proposition de l'administration d'augmenter les impôts de 11 %, le conseil a voté pour une hausse des impôts fonciers de 2,5 %. une faible augmentation qui visait alors à épargner les résidents durement affectés par la pandémie. L'administration a toutefois rappelé que d'imposants projets sont à prévoir pour les années à venir et que les propriétaires ténois pourraient être contraints à devoir y contribuer de manière plus substantielle. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'Info. Je suis Thomas Étier, journaliste de l'Initiative du journalisme local pour Médias Ténois. Je vous souhaite une excellente fin de journée.